Jésus a donc désobéi à ses parents. C'est un argument souvent brandi par les adolescents en révolte. Mais je voudrais m'intéresser, plutôt qu'à la crise d'adolescence de Jésus, ce matin, à la situation des parents qui sont paniqués et qui se rendent compte, chemin faisant, que leur enfant a disparu. Marie et Joseph, en réalité, je le crois, je vais essayer de le partager avec vous, mettent des mots et des gestes sur des réalités très spirituelles, très intérieures, comme, que nous connaissons bien, comme le doute, la foi, la quête spirituelle, la remise en question et le nouveau départ. En ce lendemain de Noël, j'aimerais vous inviter à méditer avec moi ces réalités. Marie et Joseph, vous l'avez peut-être senti dans ce récit, mettent en œuvre, manifestent de belles qualités et quelques erreurs. Leur qualité, en tout cas celle qui m'apparaît, c'est qu'ils ont un engagement religieux conséquent, important. Ils célèbrent Pâques, comme nous venons de célébrer Noël. Ils pratiquent leur religion, ils font des sacrifices, des pèlerinages, suivent la loi de Moïse. Ils sont un peu comme nous, qui fréquentons notre église, nous lisons la Bible, nous prions, nous accomplissons nos devoirs religieux. Tout protestant et évangélique que nous sommes, il serait, à mon sens, un peu présomptueux de nier que notre vie chrétienne est libre de toute habitude et de tout devoir religieux, qu'elle n'est que vie, relation pleine et entière avec Dieu. Et donc je salue au passage cet engagement religieux de Marie et Joseph. L'erreur de Marie et Joseph est ailleurs. C'est pas rien, c'est d'avoir perdu Jésus. Leur vie religieuse se limite à quelques fêtes, quelques cultes, comme nous pouvons quelquefois vivre notre christianisme. On vient rencontrer Dieu à l'église le dimanche matin, et je salue au passage ceux qui sont là, peu nombreux, mais qui sont là. On vient rencontrer Dieu à l'église et puis on lui dit « À la semaine prochaine, Seigneur !» Comme Marie et Joseph, nous reprenons le cours de notre vie en laissant Dieu à l'église. Mais à la décharge de Joseph et Marie, il faut relever qu'ils n'ont pas attendu la Pâque de l'année suivante ou le Noël de l'année suivante, pour se rendre compte qu'ils avaient oublié Dieu au temple. Marie et Joseph interrompent le cours de leur existence pour se mettre à la recherche de ce Jésus qu'ils ont perdu. Et c'est très beau, et c'est très important, c'est rare, et il faut le saluer. Notez que la première chose qu'ils font pour retrouver Jésus, c'est qu'ils vont chercher, ils vont le chercher parmi leurs proches, dans le cercle familial. Et ils découvrent que Jésus ne s'y trouve pas. Mais ça, c'est leur deuxième erreur. Celle de croire que Dieu se trouve bien plus sûrement chez nous qu'ailleurs. Cette pensée nous est naturelle, certes, parce que nous sommes nés dans cette église ou cette tradition d'église, ou que nous y sommes depuis très longtemps. Nous sommes protestants, évangéliques, certains diront même libristes, de génération en génération. Et il nous apparaît évident que Dieu a plus de chances d'être trouvé ici qu'ailleurs. Eh bien, c'est une erreur. Être chrétien, même quelquefois quasiment de naissance, ne nous rend pas plus proche de Jésus. C'est une illusion de croire cela. Nous pouvons remplir nos vies de grandes certitudes historiques, avoir la Bible de famille installée sur la table de la salle à manger. Nous pouvons même cheminer toute une vie avec ces certitudes, ces pratiques religieuses, sans nous rendre compte de l'absence de la personne dont nous ne cessons de parler pourtant, la personne de Jésus. Et s'il reste un peu de place dans cette vaste organisation religieuse qui occupe beaucoup, hein, s'il reste un peu de place pour le questionnement, il peut arriver qu'on se demande, un beau matin, chemin faisant, mais où est Jésus ? Et c'est la question de Marie et Joseph ce matin. Vous voyez comme quoi les plus prochains de Jésus ont eu la possibilité d'avoir cet éclair de lucidité qui les amène à se rendre compte de la douloureuse évidence. Ils ont perdu Jésus. Il est vrai qu'on ne s'aperçoit pas tout de suite de l'absence de Jésus dans notre vie. Il y a tellement de choses à faire. Et puis un jour, on réalise. Et c'est la panique. On cherche de tous les côtés, n'importe où, n'importe comment. Marie et Joseph, après avoir gesticulé un moment là, prennent une décision qui est remarquable. Ils décident de retourner à Jérusalem. Pourquoi ? Parce qu'à Jérusalem, il y a le temple qui représente la présence de Dieu. Jérusalem, dans la foi juive, symbolise le lieu de la relation personnelle avec Dieu. Il faut donc quelquefois quitter le confort de nos repères anciens, qui sont bien en place, bien solides, pour retourner à la source du salut. Le départ de Marie et Joseph pour Jérusalem nous enseigne quelque chose d'essentiel en ce lendemain de Noël. Nous ne sommes jamais, jamais propriétaires de Dieu, du salut, de sa parole, de la vision de ce qu'il faut faire. Et quand cela arrive, quand on commence à se sentir un peu à l'aise, hein, dans notre foi, dans notre pratique, il faut se méfier. Et peut-être même qu'il faut s'arrêter et faire demi-tour, tout laisser et partir à la recherche de Jésus qui seul peut remplir nos vies de sens et de joie. La relation à Dieu doit rester une chose absolument personnelle. Elle ne doit jamais se confondre avec l'Église, avec les traditions, avec les carcans doctrinaux. Et si ce n'est plus clairement le cas, abandonnez tout et partez sans tarder à Jérusalem. Et si les vols sont tous annulés, partez à pied. Mais partez. C'est une manière de parler, évidemment. De parler de quoi ? De parler de la conversion. Je crois que le plus chrétien d'entre nous peut perdre son chemin et qu'il lui faut alors vivre à nouveau la conversion à Dieu. Nous aurions tort de faire de la conversion une expérience unique, quasi sacralisée dans nos milieux évangéliques. Puis converti, non, pas encore, mais ça peut venir bientôt. Alors je vais prier pour ça. C'est une expérience effectivement forte, mais qui peut être réalisée d'autres fois dans sa vie. Marie et Joseph ont déjà ouvert leur cœur à la parole de Dieu. Léa nous évoquait cela ce matin. Marie accueille la parole de l'ange. Elle a accueilli avec foi l'annonce de la venue du Sauveur dans sa vie. Mais 12 ans plus tard, voilà qu'elle a perdu Jésus. Le terme de conversion vient d'un petit mot grec qui veut dire littéralement retourner, faire demi-tour. Et au verset 44, on a bien ça. « Ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem. » Ils se convertirent. Vont-ils trouver tout de suite leur Jésus ? Non, ce n'est pas si facile que ça. Ce n'est pas le happy end immédiat qu'on aurait espéré. Non, non. Regardez bien le texte. Ils vont devoir chercher 3 jours. Il ne suffit pas de vouloir retrouver la foi pour revenir à Dieu. La conversion n'obéit pas toujours au claquement de doigts. Elle peut suivre un chemin long et difficile. Dans l'Évangile, 3 jours, c'est pas n'importe quel chiffre. C'est le temps qu'il faut pour passer de la mort à la vie. Quelquefois, celui qu'on cherche ne correspond pas à l'idée qu'on se fait de lui. C'est compliqué. Alors on cherche, et on ne trouve pas. Et on peut même passer tout près, mais on le manque. Une conversion authentique passe nécessairement par l'abandon de ses représentations, de ses certitudes, de ses repères dans lesquels nous sommes quelquefois tenus enfermés. Le salut, c'est comme ça. Il faut lâcher prise. Dieu se trouve souvent ailleurs et s'il ne vient pas lui-même à nous, nous risquons de tourner en rond plus de 3 jours. Mais Marie et Joseph ont fini par trouver. Quand enfin ils trouvent leur Jésus, mon enfant, dit Marie, ils font une découverte assez extraordinaire et assez inconfortable, assez déroutante. Ce n'est pas leur Jésus qu'ils découvrent au temple. Il ne correspond pas à l'idée qu'ils s'étaient faite de lui. Il n'est plus ou pas leur petit Jésus. Ça met une claque, hein ? Ils en sont surpris, frappés, dit le texte au verset 48, frappés d'étonnement, précise Luc. Ils ne reconnaissent plus leur Jésus. Si nous décidons de partir ou de repartir à la recherche de Jésus, il faut être attentif à ne pas décider par avance comment va se passer cette rencontre. Qui nous allons découvrir au bout de notre quête ? Si nous cherchons celui que nous avons perdu, nous risquons de ne jamais le retrouver. Jésus n'acceptera pas de reprendre la place que nous lui avions laissée avant de le perdre. Il veut sa place. Il ne veut pas faire partie du décor religieux de notre vie. Il veut y régner. Le Jésus que nous allons redécouvrir à Jérusalem risque de ne pas correspondre au portrait type du sauveur des religions. J'en ai pour preuve ce que Luc précise à propos de Jésus dans le temple. Que fait-il ? Il est au milieu des théologiens juifs. Enseigne-t-il un nouveau savoir spirituel ? Non. Prophétise-t-il des paroles mystérieuses ? Non. Réalise-t-il de spectaculaires miracles ? Non point. Jésus nous dit ce que fait Jésus au temple. 2 verbes. Il écoute. Et il questionne. C'est cela qui a suscité l'admiration des maîtres. Ils ont enfin trouvé quelqu'un qui écoute et qui questionne. Parce que depuis que le monde est monde, personne n'écoute vraiment son prochain. Et les questions qui sont posées n'ont que l'apparence de la question, mais contiennent souvent les réponses qu'on veut entendre. Jésus, lui, écoute réellement et il interroge ses semblables. Il ne s'impose pas. Il accueille l'humanité telle qu'elle est, dans sa complexité, parce qu'il l'aime telle qu'elle est et qu'il veut prendre le temps de la connaître. On ne connaît rien si l'on n'écoute pas, un peu. Le Dieu qui nous sauve est un Dieu qui dialogue, qui cherche à comprendre ce que nous sommes. Pas un Dieu qui nous lave le cerveau avec une parole magique et hop, au claquement de doigts, c'est réglé. Lire la Bible, c'est apprendre à écouter, c'est aussi apprendre à questionner et à se laisser questionner par le texte. C'est entrer dans un dialogue avec Dieu, un dialogue délicat et exigeant. Jésus écoute et il questionne, c'est tellement beau. La parole de Dieu est ainsi, elle ne nous écrase pas de ses évidences, elle chemine avec nous en nous questionnant, elle nous façonne dans un dialogue intime et vrai qui commence toujours par le questionnement et non par l'affirmation. Mais revenons à Marie et Joseph, ils sont vraiment trop mignons. Tellement ils nous ressemblent. Vous voyez que leur recherche n'a pas été une partie de plaisir, il ne suffisait pas de prendre un billet d'avion pour Jérusalem. Vois, dit Marie à Jésus, vois. Vous entendez un peu le ton de la maman blessée ? Ton père et moi, nous te cherchons tout angoissés. On voit ici Marie refuser le lâcher-prise que présuppose la conversion. Elle adresse des reproches à son petit Jésus. Il n'est pas conforme à ce qu'il devrait être. Marie est dans sa vérité sur Jésus. Elle ne lâche rien. Comme le dit Luc, il lui faudra repasser encore toutes ces choses sur son cœur et en abandonner bien d'autres au passage avant de pouvoir découvrir, peut-être même au pied de la croix, en Jésus son sauveur. La conversion peut prendre plus de 3 jours, quelquefois. Frères et sœurs, entendez ceci, que Jésus n'est pas notre chose religieuse, notre propriété spirituelle. Il est ce qu'il veut être pour nous dans le monde et dans nos vies. Et il le dit. Je veux être chez mon Père. C'est cela qu'il nous faut réaliser premièrement. Jésus ne nous appartient pas. Il nous aime, il nous écoute et nous questionne. Mais il y a quand même, je ne vais pas vous laisser partir pour Jérusalem comme ça, sans vous annoncer une très 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 bonne nouvelle. Elle est dans ce récit. Même si Jésus ne reconnaît pas toujours, ne se reconnaît pas toujours dans nos confessions de foi, dans nos déclarations religieuses, dans nos façons de vivre la foi chrétienne, il accepte quand même de venir avec nous, de rentrer à la maison. C'est ce qu'il fait. Il leur était soumis. Il se soumet à nos erreurs. Il accepte de faire route avec nous malgré nos imperfections, nos hérésies, nos incompréhensions. Vous voyez, il ne nous impose pas une vérité d'en haut qui va nous aplatir. Mais il nous accompagne sur nos chemins de vie. Avec nous, il se tient du côté de l'écoute et du questionnement. Paisiblement, Jésus semble avoir foi en nous, en cette conversion qui vient. C'est à ce Jésus-là qu'il faut nous convertir, je crois, sœurs et frères, le Jésus de la grâce. Nous le laisserons alors grandir en sagesse et en taille dans nos existences, et je ne doute point qu'elle s'en trouve bouleversée. Amen.